Bonjour, bienvenue. C'est toujours aussi impressionnant hein, de parler dans un micro. Je sais pas si je dois le tenir proche de mon menton, loin de mon menton. Ouais, apparemment, faut le coller, mais ouais, bon, j'ai pas encore la technique. Donc voilà. Alors merci beaucoup d'être venu. C'est hyper chouette de vous voir aussi nombreux, nombreuses. C'est trop trop cool. On va passer une petite heure avec Calvin Soares qui est ici à ma droite. C'est un moment de dialogue. Donc on n'est pas dans un format de conférence. C'est vraiment ici. Vous êtes vraiment invité à la fin de poser toutes les questions que vous voulez ou à challenger Calvin, pourquoi pas, sur des thématiques. Avant de commencer, j'ai envie de poser le cadre pour celles qui ne l'avaient pas encore entendu. Alors le cadre, c'est premièrement, ayez confiance en vous quand vous posez des questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions idiotes. On est vraiment libre de poser toutes les questions qu'on veut. Ayez aussi conscience du privilège que vous avez quand vous parlez, quand vous portez la parole. Il y a peut-être des personnes qui ont un peu moins qui sont moins à l'aise pour prendre premièrement la parole, donc n'hésitez pas à, voilà, ayez conscience et connaissance de vos privilèges à ce moment-là, et aussi du temps de votre parole. C'est bien et c'est mieux si les questions sont courtes et précises, et aussi pour nous pour répondre aux questions, c'est aussi plus simple. Au niveau des applaudissements, n'oubliez pas d'applaudir comme ceci pour éviter les bruits parasites pour les personnes qui y sont sensibles. Et voilà, mettez votre téléphone en vibreur ou quoi, si jamais, parce que ça peut aussi gêner un peu l'audience. Donc, comme je l'ai dit, on va avoir une petite heure pour passer le dialogue avec Calvin. Alors, Calvin, j'ai regardé ton CV qui est hyper long, mais je vais quand même le résumer en quelques points pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc, tu es Calvin Soares, tu es président aujourd'hui du Parlement francophone bruxellois, tu es aussi député écolo et tu es conseiller communal à Gaisseren, déjà rien que ça. Avant ta carrière politique purement au niveau du parti, on va dire, tu avais une carrière militante, mais qui est aussi très politique au final. Tu étais au MRAC, ce qui est donc le mouvement contre le racisme, antisémitisme et xénophobie. Et tu as été cofondateur et coordinateur au collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Tu as aussi été journaliste sportif. On peut en parler après. Tu as fait tes études à Saint-Louis et tu as été apparemment à ce moment-là président du cercle panafricain Kilimandjaro à Saint-Louis. Tu as été professeur de sciences sociales pendant 6 ans et tu as écrit des livres. Voilà, donc là, je vous ai vraiment résumé son CV. N'hésitez pas quand même à le regarder sur Google. Mais moi, j'ai aussi fait mes recherches et comme bonne Gen Z, j'ai fait mes recherches sur Instagram. Ah ouais. La première question que j'ai pour toi, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais du coup, au niveau du format, on va passer 30 minutes. Allez, 20-30 minutes, Calvin et moi, juste des petites questions comme ça. Et puis après, j'ouvrirai évidemment les paroles aux invités. Mais j'essayerai de faire le plus court possible parce que j'ai vraiment envie que c'est votre moment pour que vous posiez des questions aussi. Donc, it's your time to shine, quoi. Donc, je disais, j'avais fait mes recherches sur Instagram et dans ta biographie Instagram, tu as mis Blédard devenu président. Est-ce que, déjà c'est la claque, mais est-ce que tu sais nous en dire un peu plus sur ce que c'est Blédard et pourquoi est-ce que tu t'appelles toi-même Blédard du coup?
Merci beaucoup. Voilà, je vois des blédards dans la salle qui lèvent la main. Je suis très heureux, très très heureux de venir répondre à votre invitation parce que c'est toujours un moment très 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 privilégié de discuter avec la jeunesse. Je crois que c'est extrêmement important pour un parti comme le nôtre, dans la mesure où nous avons des fondamentaux qui touchent d'abord la jeunesse. Et je crois que c'est très important dans mon parcours. J'ai toujours, toujours travaillé avec les jeunes et la jeunesse, que ce soit au MRAX, que ce soit à Mémoire coloniale. Je pense que vous connaissez un certain nombre de jeunes du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Ouais, sans tout. Et j'ai vu que vous aurez une visite guidée des coloniales. Effectivement, donc, que ce soit à l'école, et mon engagement aussi vient de là. Mon engagement politique vient du fait que j'ai vu pourquoi il est très important de s'investir pour la jeunesse et notamment au niveau de la radicalité. Quand je parle de radicalité, c'est aller à la racine des mots. Voilà, parce que souvent on confond les termes, c'est très important d'apporter les solutions à partir de la racine. Alors, pour revenir à ta question, pourquoi Blédard ? D'ailleurs, ça a un lien avec les racines. Le bled, je pense que tout le monde voit à peu près ce qu'on appelle le bled. Quand je suis arrivé en Belgique, je vais peut-être être un peu dur, mais ce que je vivais en termes de racisme venant de la part de personnes qui ne sont pas racisées, je vivais des stéréotypes, des discriminations qui sont venant de la part de personnes racisées, mais qui sont nées, qui ont grandi ici. Tout simplement parce que je venais du bled. Et pour les personnes non racisées qui avaient des stéréotypes en tête, c'était doublement plus violent venant de leur part. À Saint-Louis, moi je suis quelqu'un de très engagé. Quand j'arrive, je ne me pose pas de questions, je fonce. Je suis arrivé en septembre 2004. Et l'année d'après, j'étais déjà dans l'équipe qui allait aux élections pour diriger les étudiants à Saint-Louis, le CAU de Saint-Louis, pour ceux qui connaissent celles et ceux toutes les personnes qui sont aujourd'hui à Saint-Louis. Pourquoi je le dis? Parce que des Noirs sont venus me voir en me disant « Mais tu viens du bled, comment se fait-il que tu commences directement à t'engager ?» Nous sommes là, nous n'osons même pas parce que nous avons peur du système, parce que nous ne sommes pas habitués, et toi tu viens, tu fonces. Et j'ai eu des remarques très désagréables, on n'est pas à Dakar ici, etc. J'avais dans le Marais, qui est le journal de Saint-Louis, des étudiants de Saint-Louis, j'avais une rubrique, parce que ceux qui dirigeaient le Marais à l'époque avaient décelé chez moi cette révolte, cette rubrique s'intitulait « La gueule calvinienne ». Et effectivement, je disais des choses déjà qui n'étaient pas, entre guillemets, catholiques, qui n'étaient pas ce qu'on entendait souvent. Et c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai, entre guillemets, souffert de ce statut de blédard qui ne la ferme pas, qui ne se cache pas. Et puis, finalement, pourquoi j'ai choisi le terme blédard et fier de l'être parce que c'est le retournement du stigmate. C'est comme quand Aimé Césaire et d'autres disaient « Le nègre t'emmerde », c'est plutôt ça. J'en ai fait une fierté. Et tout ça, au bout de la troisième année à Saint-Louis, je n'en pouvais plus. Parce que j'étais dans une fac de droit où j'étais au milieu de personnes qui venaient de familles hyper aisés, très riches, qui avaient un langage, qui avaient des codes, qui avaient une façon de voir, et qui avaient des stéréotypes très forts. En troisième année, je n'en pouvais plus. C'est pour ça, bon, tous mes amis voulaient que j'aille à l'UCL, mais j'avoue que c'est pour cela que je suis parti à l'ULB. Parce que je me disais si je devais avoir la même ambiance à l'UCL, c'était compliqué, or j'avais mon ex-petite amie là-bas, j'avais ma meilleure amie là-bas. Je voulais rompre avec ce milieu-là qui, pour moi, était vraiment, vraiment, vraiment imbu de lui-même. Surtout, disons-nous la vérité, surtout la fac de droit. Surtout la fac de droit. Après mon droit à Saint-Louis, j'ai fait une passerelle pour faire les sciences politiques à l'ULB. Et les relations internationales précisément. Mais je termine en disant que tout ça n'est pas venu tout de suite. Je l'ai gardé en moi et puis c'est sorti un jour, alors que je travaillais déjà, des jeunes filles noires se moquaient d'un jeune garçon noir qui venait d'arriver du bled. Et là, ça m'a rendu furieux. Et j'ai écrit un texte qui est sur mon ancien blog, Je suis blédard, j'aime la politique et je vous emmerde. Voilà. Parce qu'on disait, les stéréotypes, c'est le blédard aime la politique, le blédard parle fort dans le métro, le blédard n'a pas de complexe, etc., etc. Et donc, c'est vraiment un retournement de stigmate, mais c'est aussi une défense. j'ai développé une défense, une sorte de carapace comme ça. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, quand les gens me disent « Ah ouais, tu n'as pas grandi ici, tu es venu à 22 ans », mais quand on voit ton parcours, oui, c'est parce que dans la tête, je me suis, disons, créé des armes défensives dont celle-là. Et donc, beaucoup de gens me disent encore aujourd'hui, beaucoup de jeunes, « Ah, blédard, c'est quand même péjoratif, pourquoi tu l'assumes ?» Je dis oui, quand on commence quelque part à mener une lutte, on essuie les plâtres, et puis, des années plus tard, tout le monde trouve ça normal. Voilà, c'est pour ça que je l'assume sur tous mes réseaux, mais aussi partout.
Oui, c'est vraiment devenu une force, quoi, du coup, de dire blédard. C'est compréhensible. Tu le dis un peu dans ta réponse, mais du coup, t'es venu ici quand t'avais 22 ans, t'es venu tout droit du Togo. C'était quoi ton sentiment quand t'es parti de ce pays? Genre, qu'est-ce que tu t'es dit de... Est-ce que t'avais déjà de la famille ici à Bruxelles? Est-ce que tu connaissais déjà un peu le pays? Et quel était ton dernier sentiment, du coup, quand t'es parti de ton pays?
Oui, c'est assez... Disons, moi, je crois au destin. Et le destin a fait que j'atterris chez Ecolo. Pourquoi je le dis? Parce que je rejoignais ma mère, donc qui vivait ici depuis 91, qui a été sans papier pendant 10 ans et qui a été régularisée suite à la mort de Semira Adamou. Pour les personnes qui connaissent Semira Adamou, c'est une femme noire d'origine nigériane, donc du Nigeria, qui a été l'objet de plusieurs tentatives d'expulsion parce qu'elle était sans papier. Et en fait, je pense, je ne sais plus à la quelième occasion, je crois que ça devait être à la 10e ou à la 12e occasion, les policiers ont appliqué la technique du coussin. Elle était enceinte, donc ils lui ont appliqué le coussin sur le visage pour qu'elle puisse quelque part s'évanouir et qu'on puisse la porter plus tranquillement. Et elle est décédée. Et donc, son décès a entraîné toute une mobilisation qui a amené la première grande vague de régularisation des sans-papiers. Et Ecolo a joué un rôle très important. Des gens comme Zoé Genot ont été très, très, très impliqués, très, très actifs et actives. Et c'est à cette occasion que ma mère a obtenu ses papiers. Moi, j'avais déjà une petite idée par le petit bout de la lorgnette de la Belgique parce que, comme j'étais curieux, je demandais à ma mère qui était fille au père de m'envoyer tous les cours des enfants dont elle s'occupait. Donc, ce qui me permettait de voir un peu ce qu'on voyait à l'école. Mais elle m'avait envoyé toute la collection de Tintin qu'on m'a volée. et c'est assez... Je pense que le destin fait des clins d'œil parce que quand j'ai milité sur Tintin au Congo... Les gens m'ont dit, les gens de la droite réactionnaire et conservatrice ont dit, ou l'extrême droite, ah, rentre chez toi. Bon, maintenant on dit wokiste. À l'époque, on disait pas wokiste. Mais en fait, ils ne savaient pas que moi, j'adorais Tintin. Je trouvais que Hergé avait du talent. Mais simplement, quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut les dire. Même si la personne, c'est-à-dire, j'aime le dessin, j'aime les scénarios. J'ai découvert récemment la villa du docteur Bergamot à Watermal-Boisfort. Pour moi, c'est toute mon enfance. Donc, quand les gens me disent ça, moi, ça me fait rire parce qu'ils ne savent pas du tout que j'ai aussi appris à connaître un peu la Belgique par cela. Maintenant, en venant ici, c'est vrai que je quittais un pays où j'étais déjà un peu politisé, ce qu'on appelle l'Assemblée Générale à l'époque, on balançait des pierres sur les militaires qui envahissaient le campus. Donc, c'était une atmosphère très, très lourde à l'époque, au campus de Lomé, qui était la seule université du Togo. Donc, je suis arrivé ici assez remonté. J'étais déjà lumumbiste à 18 ans, donc les partisans de Patrice Lumumba. Et certains pensaient que c'est ici. Non, pas du tout. Le premier bouquin que j'ai acheté en arrivant à la FNAC, c'est le bouquin qui parlait de la commission d'enquête sur l'assassinat de Patrice Lumumba. Donc voilà, je pense qu'il y a une cohérence par rapport à ça. Maintenant, soyons clairs, il y a un déracinement qui est complet. Moi, même si je connaissais un peu, prenons des trucs basiques, la manière dont les gens marchaient, la manière dont les gens ne s'adressaient pas la parole. C'est classique, hein. Tous ceux qui viennent du sud du monde le disent, ou de l'Afrique le disent. Il y a une vie, enfin, Moi, on se disait, il n'y a pas de vie en Europe. Ça veut dire que les gens ne savent pas vivre. On survit quelque part parce qu'on court tout le temps. Et pour vous montrer une image, la dernière fois, une amie mettait sur son Facebook un vieux. Et quand on t'appelle le vieux, enfin, quand moi j'appelle les aînés du collectif Mémoire Coloniale le vieux, ils sont fiers. Je les appelle le vieux. Quand ils sont 4 ou 5, quand je les vois, je dis les vieux, ça va. Bah, ici, si vous dites à quelqu'un le vieux, il va mal le prendre. Mais la vieillesse, c'est signe de sagesse, c'est signe d'expérience, et donc c'est valorisé positivement. Et donc, cet ami avait mis l'image d'un vieux qui était sous son arbre, dans son jardin, et c'est une vidéo, et ce monsieur est resté pendant 1 heure, droit comme un i, assis comme ça, en regardant l'horizon. Et il faisait rien. Est-ce que nous sommes encore capables de le faire? C'est de la méditation, c'est de la réflexion, c'est de la concentration. Nous ne sommes plus en capacité de nous concentrer dans cette société capitaliste qui nous bouffe complètement et qui ne nous permet pas de nous retrouver nous-mêmes, de cultiver en nous la concentration, la méditation, la réflexion profonde. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de superficialité, parce que nous sommes occupés par plein de choses. C'est pour ça que je disais qu'on ne vit pas, on survit. Et donc ça, c'est quelque chose que je retrouve encore quand je rentre en 2021. Malheureusement, j'ai perdu un cousin. Bon, moi, je dis c'est mon grand frère, mais je rentre et pour la première fois depuis que je rentre dans mon pays d'origine, je prends le temps d'écouter les oiseaux et d'écouter les enfants qui jouent dans la rue. Et ça, parce que j'étais dans un état de deuil et que j'étais dans le recueillement, et je me suis dit, mais en fait, ça fait combien d'années que j'ai perdu le sens de pouvoir écouter et de pouvoir écouter les oiseaux qui venaient sur ma fenêtre ou les rires des enfants dans la rue. Et ici, on n'a plus ça. On l'a peut-être dans les villages, mais on n'a plus ça ici. Et donc, je trouve que je l'ai un peu maintenant à Gansourne parce que c'est une commune qui est entre village et la ville. Et donc j'entends les jeux des enfants derrière ma fenêtre. Et ça me fait énormément de bien parce que ça me permet de sortir de mon quotidien où il y a de la pression, où il y a... Voilà.
Merci pour cette réponse. J'allais justement te demander si tu avais un endroit à Bruxelles où tu aimes bien justement te recueillir ou te décontracter, boire un café. Peut-être que, je sais pas si à Gansorun, à Watermael-Beaufort peut-être. Et pas de voiture.
Oui, alors, à Gansourne, on a le bois du Larbec, où je vais courir parfois. J'alterne entre le parc Élisabeth et le bois du Larbec. C'est un endroit, c'est un des très très beaux endroits de Bruxelles, parce que c'est très calme, c'est très peu fréquenté, et on peut vraiment trouver de la sérénité là-bas. Très clairement. Maintenant, moi, je dis que l'un des endroits où je trouve le plus de plaisir, c'est sur un terrain de foot. Et donc, je devais être au foot aujourd'hui et j'ai dit à mes potes, ben, écoute, c'est pas possible parce que j'ai plus important à faire aujourd'hui. Et tous les samedis, on va jouer sur le terrain du champ d'oiseaux au complexe sportif du Vogelsang à Anderlecht. Et je vais dire, c'est les moments où parce que vous savez, parfois, on est tellement auto-centré en politique qu'on pense que tout le monde sait ce qui se passe en politique. Ben non. En fait, j'ai des potes dans mon équipe qui sont restaurateurs, qui sont dans le bâtiment et qui n'en ont, excusez-moi du terme, rien à foutre de la politique. Et donc, quand je vais là-bas, franchement, je suis complètement en dehors du milieu politique. Et puis après, la troisième mi-temps et à part quelques pics, good move évidemment, qui revient régulièrement. Mais sinon, à part ça, franchement, c'est un endroit où je déstresse totalement.
D'ailleurs, en parlant de foot, on m'a dit dans l'oreillette que tu étais fan de l'OM. Déjà,
Ah,
pourquoi?
je suis un fanatique de
Il y a
l'OM.
plein d'équipes, il y a plein d'équipes en Belgique. T'es pas fan d'une équipe, je sais pas,
Non,
bruxelloise.
mais d'ailleurs, je suis fan du Standard parce que
Ah.
j'ai été fan de l'OM. En fait, l'OM c'est particulier parce que 91 ils jouent la Coupe des Champions qui est devenue la Ligue des Champions Et je vois des gens pleurer dans notre maison. Je me casse la tête d'ailleurs parce que je courais tellement pour voir la séance de tir au but. Je me dis, mais pourquoi les gens pleurent pour cette équipe qui est une équipe française? Et en fait, on m'explique. Et en 93, quand je lis lisez par exemple le Docker de Samben Ousmane, vous verrez, ou Banjo, le livre Banjo, vous verrez pourquoi cette ville a une âme. Ce n'est pas une ville artificielle, c'est une ville qui est là depuis plus de 3000 ans, qui a une vraie âme. Et quand vous y allez, vous vous rendez compte de la diversité qui existe dans ces villes, dans cette ville, et vous sentez vraiment qu'il y a un truc. Et j'avais peur de, disons, puisque j'ai commencé par le foot, j'avais peur en venant en Europe et en allant à Marseille, j'avais peur d'être déçu. Mais non, la ville ressemble au club. Et Liège, c'est la même chose, hein. Moi, quand j'ai vu les supporters du Standard à la télé à 16 ans, je me suis dit, mais c'est les supporters de l'OM, en fait. C'est la même chaleur, c'est les mêmes chants, c'est, voilà, l'antifascisme, etc., qu'on retrouve comme tradition à l'OM. Et c'est vrai, je suis un grand fan de foot. D'ailleurs, je vous conseille le podcast 21 minutes, qui est fait par des potes qui suivent un peu les jeunes Diables Rouges. Et la dernière fois, j'étais invité pour faire un peu le débrief de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on a parlé de plein, plein de choses. Voilà.
Et du coup, est-ce que c'est de là qu'est venu dans ton CV cette pépite qui sort de nulle part, journaliste sportif
Oui, j'ai toujours été un grand fan de journalisme, tout simplement parce que au lycée, donc dans le secondaire supérieur là-bas, j'avais été directeur du club journal. Donc, généralement, une équipe est élue pour diriger les élèves. Et dans cette équipe-là, j'ai été désigné pour diriger le club journal et notamment pour écrire des articles sur les activités du lycée. Et en venant ici, bah, une radio togolaise m'a repéré et m'a proposé d'être correspondant sportif bénévole que j'ai fait pendant 6 ans. Je suivais les internationaux sportifs footballeurs africains en général. Et puis, j'ai été repéré par la BBC, le service Afrique de la BBC. Et j'ai travaillé pour eux pendant 2 ans et demi. Et puis, j'ai fait Radio Campus ULB aussi. Voilà. Et donc, en fait, c'est ma passion du foot qui m'a amené au journalisme, même si la politique aussi, parce que j'aimais. À 15 ans déjà, moi j'étais devant des débats politiques et mes oncles me disaient, on ne comprend pas, on te comprend pas parce qu'à 15 ans, un enfant normalement savait voir des films de karaté, des films de guerre et toi tu vas regarder des débats politiques. Voilà.
Et en parlant un peu de ton parcours, tant au niveau du lycée, même universitaire. Donc, tu as fait tes études à Saint-Louis. Et on m'a dit aussi dans l'oreillette que tu as fait tes études avec Georges-Louis Boucher. Première question, est-ce que ça va?
J'ai plus que fait mes études avec celui qu'on appelle Georges.
On
C'est
n'a plus le
difficile
prénom.
aujourd'hui chez Colo, effectivement, de parler de lui en ces termes, parce que l'être humain est complexe, il évolue. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que lorsque je suis arrivé, j'ai été directement. Ben, on a été dans la même équipe. Et quoi qu'on dise, voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas une colonne vertébrale politique. C'est quelqu'un qui est opportuniste, mais c'est quelqu'un qui est intelligent. Parce que il y a eu 3 équipes à l'époque. Il y a eu une équipe très diversifiée où il y avait des gens qui venaient du Liban, de l'Iran, des États-Unis, du Togo, du Congo, etc. Et les 2 autres étaient très belgo-belges. Eh bien, tout le monde s'attendait à ce qu'il aille dans une équipe plutôt belgo-belge. Il a choisi l'équipe la plus diversifiée. Parce qu'il a compris qu'il y avait un début de changement à Saint-Louis. Parce que ben, on était dans la même promo que le petit frère de la reine Mathilde, par exemple. Et donc, je vous dis pas les noms qu'il y avait, les noms des grandes familles qu'il y avait, qui venaient de Saint-Pierre, Saint-Dominique, voilà, Saint-Michel, tous les saints, quoi. Et en fait, lorsqu'il m'a vu pour la première fois, il est venu directement vers moi. Il m'a dit, de tout le groupe, parce qu'on a été élu, alors qu'on nous promettait d'être battus, notre équipe a été élue. Il m'a dit, toi, je sens que tu as du sens politique. Et tout est parti de là, on a commencé à échanger. Et d'ailleurs, nous sommes les deux de l'équipe à avoir fini en politique. Et à l'époque, je peux vous dire quelque chose, parce que notre relation est allée au-delà de l'université. Il a voulu que je vienne travailler pour Renders quand il était au cabinet de Renders. Je lui ai dit non, genre, c'est pas mon, c'est pas mon truc. En fait, je vais vous surprendre, mais à l'époque, il était plutôt progressiste sur les questions de société. Lorsque vous allez regarder dans les archives, y compris dans les journaux, c'est quelqu'un qui était pour la liberté de porter le voile, à partir du moment où on était majeur. Il l'a dit dans Le Vif en 2012. Je vais vous surprendre encore plus. Avec lui, on a travaillé pour mettre en place la première œuvre de décolonisation en Belgique. Donc si vous allez sous le porche de l'hôtel de ville de Mons, vous allez voir une plaque en hommage à Patrice Lumumba et à ses camarades qui ont été assassinés. Mais c'était une stratégie de mémoire coloniale. Hein. À l'époque, on se disait comment relancer la lutte décoloniale en Belgique. Quand on disait décolonisation, les gens pensaient que c'était l'attribution de l'indépendance au Congo, alors qu'on parlait de changement de système en lien avec la propagande coloniale, les stéréotypes et toute l'histoire qui a été racontée pour manipuler les cerveaux ici en Belgique et ailleurs, dans tous les domaines en fait. Et donc, on se battait, on a mis en place la stratégie en se disant il faut un gros coup et imposer le nom de Lumumba dans l'espace public en Belgique, vous ne vous rendez pas compte. Mais à l'époque, moi j'ai eu des menaces de mort, j'ai eu plein de choses. Les gens m'ont dit tu es fou, c'était un meurtrier, c'était etc., etc. Et donc, on a essayé à XL, comme vous le savez, pendant très 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 longtemps. On ne l'a pas eu. Et on s'est dit, il y a un jeune foufou à Mons qui est prêt à tous les coups. Et donc, comment faire sauter le verrou? Les aînés m'ont dit, tu le connais, c'est ton pote, tu vas le voir, tu vas le convaincre. Et on va ouvrir la porte par là. Et c'est ce qui s'est passé. À partir de Mons, tout s'est ouvert. Tout s'est ouvert. Charleroi a suivi, Bruxelles a suivi, etc., etc. Et donc, il était fier à l'époque, mais il l'est un peu moins aujourd'hui, de se lever, parce qu'on a fait venir des jeunes de tout le pays remplir le conseil communal de Mons pour cette motion. J'ai écrit cette motion avec lui. Et il était fier de se lever, de venir vers moi et de dire, c'est mon ami, il est décolonial, mais c'est mon ami. Aujourd'hui, il ne pourra plus l'assumer.
C'était ma question. Est-ce que vous allez boire des verres ou pas quelquefois?
Oula, Georges, ça fait des années qu'on ne va plus boire des verres. Ça fait des années que le groupe de potes qu'on a, on l'a, entre guillemets, exclu des mariages, des anniversaires, etc. Il ne vient plus. Bon, voilà. Quand on se croise, on se dit bonjour et il a toujours le mot pour un peu piquer écolo. Mais voilà, moi je pense sincèrement, et je le dis à tous ceux qui me posent la question, je pense que vous le reverrez dans 10 ans, il va encore changer de position. Les gens me disent c'est impossible, mais si. Vous allez voir, quand l'opportunité se représentera, je pense qu'il pourra redevenir progressif sur certaines questions.
Voilà. Peut-être sur des questions décoloniales, mais en parlant de... On passe de Georges-Louis Boucher à la décolonialisation. Bref. Donc, tu as fait un gros travail sur la décolonisation, c'est hyper dur à dire, de l'espace public, donc tant au MRAX qu'au collectif Mémoire Coloniale. Si tu avais un endroit, j'avais posé la question 10 minutes avant le talk, si tu avais un endroit à Bruxelles, que ce soit une place, une rue, où tu aimerais décoloniser, donc c'est-à-dire enlever le nom pour en mettre un nouveau, en tout cas dans ce cas-là, est-ce que tu as une idée d'un endroit que tu aimerais changer? Je sais que tu as fait partie, par exemple, des réflexions pour le square Lumumba à Port de Namur. Est-ce qu'il y a un autre endroit, par exemple, que tu aimerais décoloniser de cette manière-là, disons?
Alors, évidemment, il y a le cinquantenaire. Je pense que c'est un endroit hyper, hyper symbolique qui est fréquenté par plein de monde, y compris par les touristes. Souvent, les gens s'attendent à ce que je dise la statue du trône, de la place du trône, mais non. Je me méfie toujours des symboles où tout le monde, c'est-à-dire où tout le monde s'agglutine en fait, parce que c'est devenu commun. Vous savez ce qui serait pour moi, en termes de décolonisation magnifique, c'est de faire une statue aussi grande que celle de Léopold II, d'une femme qui a lutté contre la colonisation. Et en fait, c'est le contre-pouvoir. Vous voyez, il y a Lumumba de l'autre côté, certes, mais le contraste ne se voit pas assez. Pour moi, ça, ce serait une étape. Mais pour moi, en termes de décolonisation, ce serait très, très fort. Parce que les gens passeraient, se poseraient la question. Pourquoi cette femme? Pourquoi est-elle si importante pour qu'on la mette sur le même piédestal? Vous vous rendez compte? Ça aussi, c'est de la décolonisation concrètement. Donc, si on doit faire quelque chose sur cette place, je pense que c'est... Là, on fait de la féminisation de l'espace public, on fait de la décolonisation de l'espace public et on fait de la diversification de l'espace public. Je crois qu'on gagnerait trois choses en même temps en faisant cela. Parce que, vous savez, j'entends beaucoup qui disent « il faut l'enlever, il faut l'enlever ». Oui, je pense que l'histoire elle-même, le sens de l'histoire, c'est ça. Ça viendra, mais aujourd'hui, je pense que nous avons besoin d'une étape intermédiaire. Et cette étape intermédiaire doit permettre aux artistes de déconstruire ce que d'autres artistes ont été instrumentalisés pour faire à l'époque. Pour revenir à un endroit peut-être qui est très peu connu, c'est la rue du Commandant Luther, qui se trouve à Etterbeek. Donc, pourquoi cette rue? Parce que le Commandant Luther a été l'aide d'un plus grand salopard de la colonisation. Vraiment. Et parce que le collectif Mémoire Coloniale a fait un travail de terrain sur cette rue en allant mettre dans les boîtes des habitants. Est-ce que vous savez qui était le commandant Luther, ce qu'il a fait au Congo, etc. Et donc, les habitantes et les habitants, beaucoup nous ont écrit au collectif pour leur dire, en tout cas c'est ce que Aliou m'avait expliqué, pour dire qu'ils étaient d'accord et qu'ils ne savaient pas du tout qui il était et la symbolique qu'il représentait. Et donc, c'est des gens comme le général Storms qui ramenaient des crânes, qui coupaient des têtes et qui ramenaient des crânes ici en Belgique. Voilà.
Merci beaucoup. La question de la décolonisation, elle est aussi hyper importante pour la question de la représentativité. J'ai aussi une question pour toi. Je sais que moi, personnellement, la représentativité, c'est hyper important pour moi. Donc, en tant que coprésidente d'écologie, d'être une femme racisée, je suis une femme turque, elle est hyper importante. Je sais que je peux... Enfin, bon, je ne suis pas une influenceuse, hein, mais peut-être influencer des gens. Est-ce que pour toi, cette question, elle est importante? Et est-ce que tu penses être... est-ce que tu penses avoir ouvert une porte aussi pour d'autres hommes noirs, par exemple? Est-ce que cette question de la représentativité pour toi, elle est importante encore plus du fait qu'aujourd'hui tu es président du Parlement francophone bruxellois, par exemple?
Bien sûr. Bon, avant moi, disons que la question décoloniale est une question qui s'est faite par cycle. On a trois générations aujourd'hui de militants chez les afrodescendants. Dans les années 50-60, la première génération, notamment d'étudiants congolais qui sont venus en Belgique, mais aussi d'étudiants camerounais et d'autres, et ça on l'oublie, étudiants congolais qui ont lutté pour l'indépendance du Congo, mais les étudiants, d'autres étudiants africains et même d'autres continents qui ont fait le premier sommet panafricain ici à Bruxelles, le premier congrès panafricain. Il y a très peu qui le savent, avec le premier étudiant noir, Paul Panda Farnana, ici en Belgique, au début des années 30. Et donc, il y a très, très, très peu de gens qui le savent, mais il y a eu déjà, à cette époque, une conscience décoloniale, même si ce n'était pas formulé comme ça, qui était liée à la conscience panafricaine. On a une deuxième génération qui a été celle des années 70-80, un peu 90 aussi. 70-80, c'est toute la période anti-apartheid d'Afrique du Sud. Donc sur les campus ici, notamment à l'ULB, il y avait énormément de mobilisation pour la libération de Nelson Mandela et contre l'apartheid. Parce qu'il faut rappeler que certains pays en Europe ont soutenu le régime de l'apartheid. Il faut rappeler que certains régimes, aujourd'hui on parle de la guerre Israël-Palestine, certains régimes israéliens ont soutenu activement le régime de l'apartheid. Et puis ensuite, il y a eu dans le prolongement toute la génération qui a lutté contre les dictatures avec la chute du mur de Berlin. Et enfin, je trouve que maintenant, on est dans un nouveau cycle depuis une dizaine d'années. Et l'histoire est faite de cycles, avec des moments de creux. Et donc, moi aussi, je suis l'héritier de toutes ces luttes qui ont continué jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, est-ce que je suis, disons, j'ai ouvert la voie pour d'autres? Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, parce que quand moi je suis arrivé, je suis hybride. Je suis pas né ici, j'ai pas grandi ici. Je n'ai pas fait mes études secondaires ici. Et pourtant, je suis arrivé, j'ai fréquenté des vieux, et j'étais au milieu des jeunes et des vieux. Donc, des jeunes que j'ai incités à militer au collectif, et dans d'autres associations également. Et d'autres jeunes qui se sont inspirés de moi ou d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, quand je prends Mémoire coloniale, je suis très fier. Pourquoi? Parce que c'est le seul mouvement afro-descendant. Je ne sais pas si dans d'autres cercles culturels, dans d'autres milieux culturels, c'est le cas. C'est le seul mouvement où on peut trouver des jeunes de 17, 18 ans et des vieux de 60 ans qui militent ensemble, qui s'appellent camarades, et qui se disent, nous sommes d'accord, qui s'engueulent, qui se réconcilient, mais qui gardent toujours une vision commune. Et donc ça, je pense que oui, à ce niveau, on a fait quelque chose qui est assez rare dans le monde militant. Et moi, je suis très fier quand des jeunes viennent me voir et me disent, oui, tu nous inspires. Parce qu'en fait, quand on prend, peut-être qu'on va en parler, ce qui se passe à l'est de la RDC, moi, je n'ai pas attendu maintenant. Quand on parle de la décolonisation, je n'ai pas attendu maintenant. Quand j'ai vu Black Lives Matter, j'ai entendu beaucoup de choses. Moi, ça m'a fait un peu sourire parce que je me suis dit, la commission passée coloniale, nous, on demandait en 2012 avec Zoé Genot, j'ai travaillé avec Zoé Genot en 2012 sur ce dossier, on demandait déjà une commission d'enquête. Et ça a été refusé. Et puis, rebelote 2017 avec Benoît Hellings, on a continué. Et donc, quand ça arrive comme ça, les gens pensent que ça tombe du ciel. Non, c'est des années et des années de lutte. Et moi, je disais en rigolant, à l'époque, je savais même pas que j'allais finir chez Colo. Je venais faire du lobbying politique, vous voyez. Je prenais ma petite sacoche, je venais pour dire aux députés, il est important que vous sachiez que la décolonisation, il faut en parler dans les parlements, etc. Et je disais à tous les partis, je leur disais, le jour où vous allez avoir 15 000 noirs dans la rue, c'est vous-même qui allez décréter la commission d'enquête. Je le disais en riant, et c'est ce qui s'est passé en réalité. Donc l'histoire, à un moment donné, que vous le vouliez ou non, elle s'impose à vous. Soit vous avez l'intelligence d'anticiper, et c'est ce que je reproche à l'État belge, d'être dans l'improvisation permanente et de ne pas être dans l'anticipation. Regardez, commission d'enquête Lumumba, la question des métisses, Black Lives Matter, chaque fois on a été dans l'improvisation. Et c'est ça qui nous tue. Et c'est la même question pour l'exploitation des ressources minières. Je ferai un lien avec la question écologique tout à l'heure et le capitalisme. Mais c'est parce qu'on est toujours dans l'improvisation et qu'on a fait cette commission, on pense que c'est fini. Mais moi, je pense, de mon expérience, il va y avoir encore dans les années qui viennent plein de révélations qu'on n'a pas entendues, que les historiens savent, mais que nous ne connaissons pas.
Merci beaucoup pour cette réponse. Je pense que je vais laisser la question pour la RDC au public, mais moi j'ai une dernière question pour toi. Enfin, j'en avais plein d'autres, mais j'ai dû choisir. Tu as parlé beaucoup de fierté quand tu parlais du collectif Mémoire coloniale, mais aussi du MRAX. Aujourd'hui, j'ai une question un peu plus personnelle et voilà. Est-ce que tu penses avoir réussi? Et si oui, c'est quoi pour toi la réussite?
Y a un proverbe qui dit « On ne peut pas s'apprécier et danser en même temps. » On ne peut pas danser et s'apprécier en même temps. Donc je pense que d'abord, alors je dirais ce qui est ma fierté, et peut-être que c'est ce qu'on peut appeler réussite, mais je pense que c'est aux gens qui regardent ce que tu fais, de te dire « ça c'est une réussite ou pas ». Je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir évaluer. L'auto-évaluation est importante, mais pour soi, l'autocritique pour soi. Par contre, le jugement, ou en tout cas l'appréciation, elle vient toujours de celles et ceux qui sont en face et regardent ce que tu fais. Moi, ma fierté, c'est les jeunes. Voilà. Je suis arrivé dans un milieu où il y avait très peu de jeunes aux affaires, aux commandes. Aujourd'hui, le collectif est dirigé par Geneviève Kaninda, jeune femme noire de 30 ans. Sam, je pense qu'elle a 30 ans maintenant. Oui. Jeune femme de 30 ans, afro-descendante, voilà, qui est la fille d'une militante, d'une ancienne militante, très connue dans la communauté. Et aujourd'hui, moi, je suis très fier parce que lorsque vous formez des gens, c'est de les amener à vous dépasser. Quand je prends quelqu'un comme Aliou, moi, j'ai créé 7 ou 8 visites guidées. C'est ce que moi, j'ai créé sur Bruxelles. Aujourd'hui, on en est à, je sais pas moi, 17, 18. On en a à Liège, à Charleroi, à Coirnion, à Namur, un peu partout, à Tournai,
à
Ostende. Moi, quand je vois ça, je suis très fier. Maintenant, je ne suis plus beaucoup, évidemment. Sauf quand il faut faire de la formation, quand on me dit, voilà, normalement, le 25 mars, j'aurai à faire une formation sur l'impérialisme et le capitalisme. Mais quand je vois ça, et quand j'ai des retours, surtout me disant, en termes de contenu, ben vous avez des militantes et des militants qui sont bien formés. Ben pour ça, oui, c'est une fierté. Et je pense que voilà, il y a une génération qui est prête à relever le défi et à continuer.
Merci beaucoup. Ça, je pense, clôture bien un peu le dialogue qu'on a entre tous les deux. Mais maintenant, on va ouvrir les questions aussi aux invités. Juste pour rappel, encore une fois, ayez conscience des privilèges que vous avez quand vous prenez la parole, donc le temps de parole, mais aussi la parole que vous prenez. Donc s'il y a des questions, même pas des questions, ça peut être un peu des réflexions. C'est un moment vraiment chill, hein, donc n'hésitez pas, on est là encore pour une vingtaine de minutes, il me semble, 20, 30 minutes, 40, 50, non, on me dit 20. On me dit 20, 2 minutes ? Ah oui, ok, waouh. 20 minutes. Du coup, je sais pas s'il y a une première réaction, question, Jérôme. Je vais faire le tour moi, du coup.
En fait, dans ma locale, à Skervec, un jour, on discutait du programme et des priorités pour le programme. Et j'ai dit que ce qui m'intéressait notamment, c'était la décolonisation. Et un monsieur noir d'un certain âge m'a répondu que la décolonisation c'était pas important, que la priorité c'était pour lui le logement, la précarité, et je ne savais pas quoi répondre à ça. Est-ce que peut-être j'aurais dû répondre que la décolonisation engendre le racisme qui engendre la précarité, mais la précarité est aussi plus large que ça, et donc je ne savais pas bien comment répondre. Est-ce que tu as une idée?
Oui, c'est brièvement, c'est l'un des reproches qu'on fait à la question décoloniale. Mais la question décoloniale, en fait, quand je parle d'aller à la racine des mots, c'est ça. En réalité, hein, lorsque vous prenez les conséquences qui sont créées par la question coloniale, vous avez, oui, des discriminations qui empêchent les gens d'avoir accès au logement. Très clairement. Et vous avez aussi du paternalisme, et le paternalisme, c'est pas seulement vis-à-vis des personnes racisées, le paternalisme, c'est aussi vis-à-vis, en termes de politique de logement, c'est aussi la question de la gentrification, c'est aussi la question de la manière dont on pense les politiques pour les personnes précarisées, parce que ce sont les mêmes dynamiques en réalité, ce sont des dynamiques de domination. C'est pour cela que vous avez des militantes et des militants qui se reconnaissent dans le combat décolonial, même si ces personnes ne sont pas racisées. Moi, j'ai vu évoluer le public qui venait aux visites guidées. Au début, c'était des afro-descendants, et puis ensuite, ça a été extrêmement diversifié, parce que les gens comprennent pourquoi En fait, les dynamiques sont les mêmes. Lorsqu'on parle des grèves des années 60, les grèves des années 60 étaient menées par des ouvriers qui se reconnaissaient dans ce que subissaient les ouvriers au Congo ou ce que subissaient les Noirs au Congo. Et en fait, la question de l'exploitation, elle est universelle. Elle est universelle et l'esclavage et la colonisation sont le soubassement le plus, c'est-à-dire le plus crade en fait de l'exploitation humaine. Et ça, je crois que la question décoloniale, elle est essentielle parce qu'elle touche toute la société. La hiérarchisation des gens en fonction de leurs origines sociales et culturelles, effectivement, vient de l'idée coloniale. La colonisation, ce n'est pas seulement la domination d'un peuple en dehors, c'est-à-dire quand on va sur un autre territoire. La colonisation, ça peut être sur un même territoire. Hein? Prenez Israël et Palestine. En réalité, on veut trouver une solution à deux États sur un même territoire, mais on a un pouvoir qui refuse et qui met tous les moyens coloniaux pour pouvoir empêcher cela. Donc, je vais peut-être faire un lien avec la RDC, mais ça va être trop long. Peut-être que je vais permettre à ce qu'il y ait d'autres questions et je ferai le lien. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, mais... Ah oui, dans ce sens. Mais moi, je dis qu'il ne faut pas avoir trop de complexes par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi chez les Noirs des gens qui sont des soutiens à la colonisation. Ah oui. Ah oui. Il y en a. Et je peux vous dire que moi, j'ai vu naître des gens qui étaient des partisans de Mobutu et qui disaient c'est parce que Lumumba a fait son fameux discours du 30 juin qu'on est dans la merde, devenir tout d'un coup lumumbiste. Parce que l'image de Lumumba avait changé en Belgique. Et donc, on a aussi chez les Noirs, et n'oubliez jamais, et ça, il faut le dire, essayons de c'est vrai, il faut tenir compte des personnes concernées. Mais n'oublions jamais que le conseiller le plus proche de Lumumba, c'était Jean Van Lierde, qui était un militant anti-impérialiste belge, blanc. Et donc la question des alliés est aussi essentielle. Et donc parfois c'est mal compris quand je l'exprime ainsi, mais moi je peux vous dire que je ne sais pas si on aurait gagné des combats si je n'avais pas eu Zoé Genoux à mes côtés. Je le dis aujourd'hui, très clairement. Parce que Zoé... Vous savez, être noir, ce n'est pas seulement une question de couleur de peau. C'est une conscience. C'est ce que Malcolm X disait. C'est être conscient. Et donc, les 50 nuances de couleur, je comprends que les personnes concernées soient les premières à être touchées, à s'emparer de ces questions. Mais attention au fait que parfois, on a chez les personnes concernées des gens qui disent, mais moi je suis pas noir. Pourquoi est-ce que tu dis que je suis noir? Est-ce qu'on tu vas le forcer à se dire noir? Donc voilà, je crois que c'est une question dont on doit absolument tenir compte.
Ok, merci beaucoup. Peut-être une deuxième question.
Oui, du coup, merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une question sur le silence médiatique avec tout ce qui se passe dans l'est du Congo. Et voilà. C'était ma question. Pourquoi tout ce silence alors que il se passe des choses tragiques? On peut voir des informations, mais que par les réseaux sociaux, alors que les journaux n'en parlent pas. Voilà, une question.
Ben, le Congo, malheureusement, est devenu, depuis l'assassinat de Lumumba, est devenu la poubelle du monde entier. Soyons tout à fait francs. Chacun va puiser ce qu'il peut y trouver. Pendant longtemps, ça a été les Occidentaux. Maintenant, il y a la Turquie, il y a l'Inde, il y a Israël, il y a tout le monde y est. Il y a même des pays africains, le Rwanda, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, à d'autres périodes. Tout le monde y est, en fait. Et donc, il faut se dire aussi que c'est une question de rapport de force. Quand je parlais de cohérence, moi, cette question, je l'ai portée depuis des années. Maintenant, il y a une guéguerre de positionnement politique. Je dis toujours, il faut se méfier des gens qui se positionne au moment où il y a un intérêt particulier. Quand il n'y a pas de caméra, méfiez-vous du militantisme de caméra. Je dis toujours ça. C'est-à-dire des gens qui n'apparaissent qu'au moment où il y a les caméras et qui, lorsque c'est dur, lorsqu'il n'y a pas de relais, parce que quand on parle de décolonisation, il y a des moments où on envoyait des communiqués de presse, on sollicitait la presse, ils disaient toujours non. Personne n'attendait parler de cela. Et puis, quand les caméras ont commencé à arriver, tout le monde s'est approprié la question. Quelque part, on a réussi, parce que voilà, les gens s'approprient de la question. Mais le militantisme de caméra est un militantisme qui ne permet pas de garder une constance dans la lutte. Pourquoi je dis ça? Je dis ça tout simplement parce que si on se mobilisait comme on l'a fait, on parle d'un millier de personnes, moi je pense que c'était plus, si on se mobilisait de manière constante, si on parlait de ces questions de manière constante, si on ne dit pas « oui, mais toi, tu es congolais, mais toi, tu ne l'es pas, donc tu peux pas parler, etc. etc. », je crois qu'on en parlerait beaucoup plus. Et pourquoi les puissances n'en parlent pas? Parce qu'elles sont gênées. Soyons tout à fait francs, elles sont gênées. Parce que ce qui se passe à l'est du Congo, depuis des années, depuis plus de 30 ans, est une honte absolue. Après, il y a des conflits qui naissent et tout d'un coup qui prennent toute la lumière médiatique. On ne va pas comparer parce qu'il ne faut pas faire de hiérarchie, effectivement, entre les conflits, parce qu'un mort est un mort. Mais là, les dynamiques sont beaucoup plus atroces. On parle de viols, mais innommables. On parle de massacres de masse depuis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, depuis des années et des années. Et parce que c'est un pays qu'on a cherché à balkaniser, c'est pour ça que Lumumba a été assassiné, on a voulu le diviser. On a voulu le diviser pour mieux l'exploiter. Et c'est une dynamique qui existe depuis Léopold II, en fait. Depuis Léopold II. Et c'est pour cela qu'on en parle moins. Parce que tout le monde se sent gêné, parce que le monde entier bénéficie du Congo. Le Congo possède 60% des réserves de cobalt. 60%. Vous vous rendez compte, si le Congo ne produit plus de cobalt, le nombre de GSM qu'on n'aurait plus, le nombre de tablettes qu'on n'aurait plus. Et ça, sur les 60%, il y a très peu de l'argent qui sort de là, qui rentre dans les caisses de l'État. Et la technique des seigneurs de guerre qu'on entretient, c'est de faire déguerpir les populations pour pouvoir exploiter, les mettre aussi au travail forcé. Et des multinationales qui fabriquent tous ces appareils passent par des intermédiaires qui, eux, passent par des intermédiaires pour brouiller la trace, pour obtenir ces matières à vil prix. Parce que si on vendait les matières premières comme il faut, si le commerce international, les règles du commerce international étaient changées et que les pays africains et autres du Sud avaient la possibilité de fixer eux-mêmes les prix à travers une organisation où ils ont le pouvoir, peut-être qu'on n'achèterait pas les iPhones ici à 800 balles, mais à 3000, 4000, 5000 balles. Ce qui ne permettrait pas à ces entreprises de vivre. Mais qui va dépenser, à part les très très riches, chez qui on veut prendre de l'argent pour donner 200 à 300 euros sur les bas et les moyens salaires, qui achèterait ces appareils? Et donc, les modèles économiques ne seraient pas viables. C'est pour cela que les Congolaises et les Congolais souffrent. Mais moi, je dis en tant qu'Africain que la première responsabilité, comme ce qui s'est passé au génocide des Tutsis, que l'Afrique a regardé comme ça, c'est l'Union africaine. C'est l'Union africaine. Parce que si on veut lutter contre le capitalisme, si on veut lutter contre l'exploitation, eh bien, on se réveille et on lutte. Et c'est pour ça que le panafricanisme dans les diasporas est très très fort aussi. Et donc, c'est une question, la question médiatique est aussi une question de rapport de force. C'est aussi une question de rapport de force qui détient le pouvoir sur les médias, les lignes éditoriales. Moi, je peux vous dire que j'ai attendu longtemps me disant certains de mes collègues d'origine congolaise allaient faire des vidéos. Quand je voyais que ça ne venait pas, j'ai été invité par BXM, mais avant j'ai fait une vidéo. Et donc, quand on sollicite des journaux en disant « mais pourquoi vous n'en parlez pas ? Pourquoi vous ne mettez pas la lumière là-dessus ?» Ben, les choix éditoriaux sont faits aussi en fonction de certains d'une vision du monde. Et c'est pour cela que la question du rapport de force, elle est importante et que lorsqu'on veut travailler là-dessus, on n'attend pas que les médias, les grands médias en parlent, ben on prend notre téléphone et on peut, si les 1000 personnes avaient pris leur téléphone avant et avaient tous fait une vidéo, ben ça aurait fait un buzz et les médias mainstream auraient été obligés de relayer. Voyez? Et donc nous devons d'abord compter sur nous-mêmes en tant que militants. C'est comme pour Israël et Palestine. Faut pas attendre qu'il y ait une guerre, faut pas attendre, faut que ce soit constant. C'est comme ça qu'on lutte et c'est comme ça qu'on arrive à changer le rapport de force comme on l'a fait sur la question de la décolonisation. J'aimerais terminer en disant il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège de la droite conservatrice qui nous dit mais vous critiquez le capitalisme, qu'est-ce que vous proposez en échange? Mais on a en fait, vous savez, si vous voulez faire tomber un système, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un système de rechange. Ça se construit progressivement. Et il y a des alternatives qui se construisent aujourd'hui. Le marché n'est pas né avec le capitalisme. Il y avait des marchés, mais qui ne fonctionnaient pas de manière capitaliste. Donc aujourd'hui, on peut avoir des marchés sur lesquels on a des règles, sur lesquels on a des produits qui ne sont pas des produits qui fonctionnent avec des règles capitalistes, qui ne tiennent pas compte de la santé des gens, qui ne tiennent pas compte des populations pauvres, mais un commerce qui peut être à petite échelle, comme quand on parle de l'agriculture aussi, qui peut être de proximité, qui peut être fait sur la base de coopératives, etc., qui peut fonctionner. Donc ne vous laissez pas enfermer dans ce piège en vous disant « Oui, vous n'êtes pas pour l'économie de marché. » Oui, nous ne sommes pas pour l'économie de marché, certes, mais nous sommes pour une économie sociale et écologique qui est proche des gens. C'est ça la réponse qu'il faut leur donner. Et c'est ce qui ne se passe pas en République démocratique du Congo. Parce que derrière, qu'est-ce qu'on dit? On va dire « Oui, c'est vous les écolos qui voulez qu'on électrifie. » Oui, c'est important d'électrifier. Mais comment? Dans quel modèle? Est-ce que nous le voulons dans un modèle de surconsommation où on va changer de GSM toutes les années? Ben oui, là, ça augmente la demande. Mais est-ce que le fait de dire, oui, si on arrête, il y a des familles qui bénéficient de l'exploitation parce qu'ils travaillent, etc. Mais qu'est-ce que ça donne comme résultat? On oblige la République démocratique du Congo pour le cobalt, la Centrafrique pour le diamant, à être dépendant de l'exportation. Pendant ce temps, ils ne développent pas des industries pour transformer, ils ne développent pas leur agriculture, ils ne développent pas parce qu'on les rend monomaniaques, on les rend dépendants. C'est fait volontairement, en fait. Quand vous prenez le cacao, c'est un scandale. Quel est le pays européen qui produit du cacao? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On achète du cacao, on l'amène, on le transforme ici, et puis on le renvoie en Afrique, le revendre à un prix très cher, et ce sont les plus riches, les bourgeois, de la haute bourgeoisie qui peuvent en consommer. Donc ça, ce sont des modèles dont on doit absolument sortir. Et si vous connaissez l'histoire de Thomas Sankara, c'est pour ça, président révolutionnaire du Burkina Faso, qui a transformé le nom du pays, qui veut dire le pays des hommes intègres, c'est pour ça qu'il a été assassiné notamment. Hein? Donc voilà, ça ce sont des exemples concrets qui montrent le rapport de force qui existe au niveau international et qui fait que, oui, aujourd'hui, et il faut le dire, moi je le dis, très clairement, en tant qu'Africain, les pays voisins se trompent s'ils pensent que un jour, le rapport de force ne changera pas. Et donc, si on ne règle pas cette question dans une dynamique régionale et en remettant les puissances à leur place, en leur disant les Congolais ont leur souveraineté, les Africains ont leur souveraineté qu'il faut respecter. Et donc, on ne doit pas attendre que de Bruxelles, de Paris, de Washington, on dise « Vous devez faire ça avant de le faire. » Non. Que ce soit le Rwanda, que ce soit l'Ouganda, le Burundi et d'autres, il n'y a de viabilité que dans une coopération régionale renforcée qui permet de s'entendre, y compris sur la manière dont la souveraineté du Congo doit être respectée par rapport aux ressources.
Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Malheureusement, le temps file, donc on va peut-être prendre une dernière question. Une dernière question. Je ne sais pas où est le micro. Le micro. Une dernière petite question, malheureusement. Et puis, c'était pour Joseph, je pense, ouais. Et puis, peut-être qu'on pourra en parler autour d'un verre.
C'est bon, là ? Ah, ok. D'abord, je voulais juste faire une petite remarque. En fait, donc, je suis étudiant en droit à Saint-Louis. Et c'est juste pour... déjà, là, c'est grave. Il y a vraiment beaucoup de fils d'eux. Et donc, je me demande comment c'était à ton époque, parce que ça fait vraiment peur, du coup. Mais ma question, c'était... il y a quelques semaines, le Parlement francophone bruxellois a organisé un colloque sur la participation citoyenne. Et à ce colloque, il y a Julien Clarenne qui a participé, donc c'est mon prof de droit en fait, et qui finit, donc qui parle de la participation citoyenne en Belgique, et qui finit son colloque en disant qu'en fait, il faut pour garantir les droits des personnes qui participent à cette délibération citoyenne, il faut réviser la Constitution. Comment ça va marcher? Est-ce que Écolo est prêt à mettre dans son accord de majorité, dans son accord de gouvernement, une déclaration de révision de la Constitution? Et ouais, ça ma question.
Oui, d'abord sur l'ambiance. Quand tu débarques du bled, que tu viens d'une autre culture, c'est dur, mais alors, moi, je suis un gars qui est déterminé, qui encaisse, j'avoue. Qui encaisse, c'est ce qui me permet d'avancer aussi. Et je vais dire que l'ambiance était vraiment, vraiment particulière. Il a fallu s'adapter. Comme j'ai été enseignant et comme je m'occupe beaucoup d'enseignement, y compris en politique, il y a ce qu'on appelle les codes scolaires. Donc, c'est-à-dire... un certain nombre de règles, de coutumes, d'habitudes qui sont imposées, mais ces habitudes-là ne sont pas celles des classes populaires. Quand vous venez, vous êtes obligé de vous habituer au code de la classe moyenne supérieure et de la bourgeoisie qu'on vous impose. C'est pour ça que il y a beaucoup d'inégalités. C'est pour ça qu'on a des parents qui, dans les écoles, par exemple, ont du mal à assumer un certain nombre de choses, à suivre la scolarité de leurs enfants, parce que les codes ne sont pas, même, je prends l'exemple de l'organisation des réunions de parents d'élèves. On organise des réunions de parents d'élèves à des heures où, dans les classes populaires, des gens travaillent le soir ou finissent tard. Eh bien, ça, ce sont des choses qui existaient, je vais dire, ces codes-là existaient à l'université. Il y avait une manière de parler, une manière de réfléchir, une manière d'organiser les activités où les gens qui sont d'origine étrangère ou alors des gens qui ne sont pas nés ici ou qui sont des classes populaires ne s'y retrouvaient pas, tout simplement. Et puis, quand on se retrouve en troisième année, seul garçon noir, parce que vous savez, c'est l'écrémage, hein. Au début, en première année, on était 500-600, et puis on se retrouve en troisième année, on est une cinquantaine. Et dans les 50, on a peut-être... 35 ou 40 qui viennent des bonnes écoles, entre guillemets, qui ont leur langage à eux et qui ont leurs stéréotypes. Moi, j'ai déjà entendu des gens, et ils ne savaient pas que j'étais derrière eux, « Ah oui, les garçons noirs, ils finissent toujours au CPS, etc. etc. » J'étais derrière. Et à un moment donné, j'ai fait « Et ils se sont retournés, ils m'ont vu, ils étaient... voilà, ils étaient mal. Mais ça, c'était l'ambiance. Sur ta question concernant Julien Clarenne, ben oui, notre programme est très clair. Hein. Nous sommes pour la mise en place de référendums et de préférendums. Vous savez, préférendum, le référendum, on vous pose une question simple avec un choix, oui ou non. Le préférendum, on vous donne des propositions sur lesquelles vous devez vous prononcer. Mais si on est pour le référendum, ça veut dire qu'on est automatiquement pour la révision de la Constitution parce que la Constitution, pour le moment, ne permet pas l'organisation de référendum. Donc oui, Écolo est pour la révision de la Constitution, pour qu'on puisse y mettre le référendum et le préférendum, parce que la défiance vis-à-vis de notre système démocratique est de plus en plus grande. Nous avons le troisième pays le plus népotiste d'Europe, avec les fils et les filles d'eux, 12%, c'est énorme, après l'Irlande et la Grèce. Et les gens sont de plus en plus éloignés des politiques. Ils nous le disent. Ces derniers temps, j'ai beaucoup fait les milieux populaires, et je peux vous dire que c'est grave. C'est très, très grave. chez les jeunes et dans les milieux populaires. C'est pour ça que quand je suis devenu président de la COCOP, j'ai dit ma priorité, c'est la jeunesse et la démocratie. Et on vient de visiter un certain nombre d'écoles pour voir comment la démocratie à la base, c'est-à-dire à l'école, qui est le deuxième lieu où les enfants passent le plus clair de leur temps, la démocratie est respectée, parce qu'on a encore des écoles qui ne respectent pas la loi, le décret participation. Il y a plein d'écoles qui ne le mettent pas en œuvre. Et ça, c'est un travail que nous devons toutes et tous mener ensemble. Et donc, il y a d'ici, malheureusement, bon, j'ai eu très peu de temps, puisque j'ai eu 8 mois comme président de la COCOF, mais on va sortir un certain nombre de choses d'ici la fin de la législature pour au moins lancer un SOS par rapport à cette question-là. Et je crois que c'est essentiel parce qu'on parle de commissions délibératives, on parle des panels citoyens, mais on ne parle pas de la démocratie à la base. Et pour moi, la démocratie à la base, c'est d'abord dans les écoles, parce que c'est là où on trouve les futures citoyennes et citoyens.
Merci beaucoup, Calvin. Merci d'avoir pris ce temps avec nous. Merci à tous nos invités. Et j'espère que vous aurez un peu de temps après pour parler encore avec Calvin. Malheureusement, on doit passer à la suite de notre programme qui est chargé.
Je vais juste vous dire une chose. Gardez votre radicalité dans le sens d'aller à la racine des mots et de trouver des solutions. C'est la seule manière de pouvoir changer le système et de pouvoir changer notre société.
Merci Calvin, merci à tous.